RCF.
RCF Isère, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
La valeur de l'homme, autour de la série The Wire. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Valeur de l'Homme. Nous allons aujourd'hui traverser l'Atlantique pour nous intéresser à une série télé qui se déroule à Baltimore. Cette série s'appelle The Wire, en français sur écoute. Elle a été diffusée sur France O et elle est sortie en DVD. C'est une série produite par la chaîne américaine HBO qui a été diffusée aux États-Unis entre 2002 et 2008. C'est surtout une série qui paraît sortir du lot, car on la présente souvent comme la meilleure série jamais écrite. Comme une série réaliste, presque comme un documentaire sur la vie sociale et politique à Baltimore avec ses trafics de drogue, sa police, ses problèmes économiques ou ses jeux politiques. On a aussi salué dans cette série le portrait désabusé d'une Amérique en proie à la crise. On va donc s'intéresser aujourd'hui à The Wire en compagnie de deux jeunes spécialistes de cette série, Pierre-Olivier Garcia et Sébastien Leroux. Bonjour Pierre-Olivier Garcia.
Bonjour.
Bonjour Sébastien Leroux.
Bonjour.
Pierre-Olivier Garcia, vous êtes doctorant en géographie, enseignant à l'IGA, l'Institut de géographie alpine de Grenoble. Vous êtes spécialiste de la notion d'adaptation comme nouveau moyen d'action publique territoriale. Sébastien Leroux, vous êtes docteur en géographie, agrégé de géographie et spécialiste des liens entre technologie de l'information et de la communication et aménagement du territoire. Vous êtes tous les deux rattachés au laboratoire grenoblois PACTE. Alors, vous avez tous les deux eu des idées originales pour travailler sur cette série The Wire avec vos étudiants. Idée originale puisque l'an dernier, vous avez demandé à vos étudiants de L2, c'est-à-dire en deuxième année d'université, de regarder l'intégralité de la série et de rédiger chacun un article scientifique prenant chaque fois un angle différent. L'ensemble de ces articles de vos étudiants a donné lieu à un rapport qui s'intitule « Explorer la géographie des médias », la série télévisée The Wire qui est disponible en ligne, on indiquera l'adresse sur le site. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, présenter la série, cette série The Wire, à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce qu'on peut essayer de l'approcher? Pierre-Olivier Garcia.
Alors, c'est... Déjà, tout simplement, c'est une série qui se décompose en 5 saisons, c'est-à-dire 5 unités, cinq unités narratives d'une dizaine d'épisodes, un peu plus, entre 10 et 12 épisodes, qui, en tout, fait 58 heures, précisément. Voilà, il y a 58 heures d'histoire à regarder. Elle est dirigée, donc ça c'est un vocabulaire technique des séries, le showrunner.
Alors le showrunner c'est un peu l'équivalent du créateur-producteur.
C'est le créateur-producteur qui s'appelle David Simon, qui a vraiment marqué la série. C'était un journaliste local qui a travaillé à Baltimore toute sa vie et qui a notamment fait un an d'immersion dans une des brigades criminelles de la ville de Baltimore, qui les a suivis vraiment au plus près jusqu'à avoir vraiment un grand degré d'empathie avec la brigade criminelle. Il a aussi fait de l'immersion dans ce qu'on appelle les corners, qui sont en gros les ghettos de la ville de Baltimore, là où il y a énormément de drogue, de pauvreté, de misère, etc. Voilà. Et David Simon, aidé de Ed Burns, qui lui est un ancien flic, un ancien policier de la ville de Baltimore.
D'accord. Donc on a au fond, là, pour une fois dans la production américaine, deux showrunners qui sont des gens, qui sont d'anciens acteurs de terrain, donc des gens qui ont une vision et une perception des problèmes locaux qui est beaucoup plus intense qu'un scénariste qui serait un peu plus éloigné. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça joue sur la qualité de la série, Sébastien Leroux?
Oui, complètement. Dans le sens où en plus on a une pratique du journalisme du côté de David Simon, qui est vraiment un journalisme d'enquête, très sur le format journalisme à l'américaine. Donc avec à l'époque où il était journaliste, des recherches très pointues, même si au départ c'est un journaliste des chiens écrasés, hein, comme on dirait en France.
Des faits divers.
Mais qui en même temps a su, au travers de ces faits divers, soulever à chaque fois les dimensions sociales, les dimensions locales, de chaque qu'un des problèmes qu'il a eu à aborder. Et donc, on a vraiment un côté très, très proche de l'ethnographie. Voilà, ça fait partie vraiment, ce que vous disiez en introduction, de cette série qui est réaliste. Mmh. Il y a des dimensions qui sont tout à fait réalistes, tout à fait fidèles à ce que peuvent vivre, je dirais, les policiers américains, en particulier ce bâtiment. Je crois qu'ils s'y sont assez retrouvés dans certaines dimensions techniques de leur métier, etc. Il y a eu vraiment quelque chose de très, très proche du travail de terrain des policiers et aussi du côté des gangsters, on va dire, de ceux qui diffusent la drogue, etc.
Pierre-Olivier Garcia.
Oui, bah, en fait, c'était quand je parlais d'empathie tout à l'heure, c'était... En fait, donc, dans son livre Baltimore, qui est le livre où il relate son expérience auprès de la brigade criminelle de Baltimore, il a une petite notice méthodologique, un petit appendice à la fin du bouquin, où justement, il met en perspective son rapport avec ses enquêtés, où justement il parle de comment petit à petit s'est constitué une forme d'empathie envers les policiers, qui en fait est typique de l'ethnographie. C'est-à-dire on se plonge dans un environnement pour l'étudier, donc c'est son objet, donc on doit avoir une certaine distance pour le relater le plus précisément possible, mais il y a un moment donné... Donc il raconte, en fait, il était dans la voiture avec deux des policiers et tout d'un coup, un des policiers se fait attaquer par un délinquant. Mmh. Et là, en fait, David Simon se jette sur le délinquant et en fait procède à une arrestation. Et donc après, ça raconte la blague comme quoi les deux policiers ont vu la pire arrestation qu'ils ont jamais vue parce que c'est un journaliste qui l'a fait, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc il y a vraiment un moment donné où c'est... Il était dans cet univers-là, quoi. C'est, ouais. Voilà.
Et dans cet univers et habité par cet univers. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça n'est pas qu'une série policière. C'est-à-dire, c'est la perception qu'on en a, notamment à travers les deux premières saisons. Mmh. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est effectivement une série, alors sociologique ou en tout cas ethnographique, parce qu'elle va explorer des milieux différents. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus là-dessus, sur cette exploration des milieux selon les saisons?
Mmh. Oui, alors peut-être qu'on pourrait même l'appeler de manière plus large. C'est une série policière, certes. C'est une série noire aussi, en fait, avec tous les attributs des romans noirs. Et en ce sens-là, elle se veut très réaliste. Elle se veut porter un regard critique sur le social. Et du coup, le travail de David Simon va être d'avoir un peu teinté chaque saison d'une des dimensions sociales. Alors la première est très classique dans un sens policier. On suit une équipe de flics et on suit une équipe de délinquants qui mènent leurs affaires en parallèle. Alors, je dis que là, c'est très classique, très policier. Ça l'est pas dans le sens des experts. Hein. On résout pas trois crimes en 45 minutes. Hein. Mm-hmm. On en résout vaguement un au bout de 10 épisodes d'une heure. Mm-hmm. Donc, c'est là où c'est aussi assez fidèle au travail de terrain des policiers américains. La deuxième saison va être tournée plutôt vers la question du syndicalisme, mm-hmm. Qui ressemble par bien des aspects aux questions de syndicales françaises et puis qui est aussi quand même très teintée de l'histoire syndicale américaine, mm-hmm. avec le côté trafic, mafia, etc.
Dans les docks de Baltimore.
Tout ouais. à fait. Moi, c'est ma saison quasiment préférée, celle-ci. Mm-hmm. S'il fallait que j'en désigne une. Mm-hmm. Dans la saison 3, alors on met en place une logique un peu d'utopie, c'est-à-dire qu'on suit en particulier un responsable de commissariat de Baltimore qui tente de créer un quartier où on va autoriser la vente de drogue.
Voilà. D'accord.
Il recrée Amsterdam, en gros, dans un de ses quartiers. Donc, c'est ça qu'on va suivre un peu plus en avant. Mm-hmm. Et la dimension politique, c'est-à-dire qu'on est aussi en pleine élection du nouveau maire de Baltimore. Donc, on va avoir un très fort regard critique, là aussi, sur le fonctionnement politique. La saison 4 s'attarde un peu plus sur le système de l'éducation aux États-Unis, et puis la saison 5 sur le milieu du journalisme. Mmh. Et alors pris aussi voilà, dans des questions très contemporaines, c'est le début d'Internet, c'est la fin des médias traditionnels papier. Donc on suit aussi tout ça à chaque fois, voilà, chaque saison un peu du coup, ce que disait Pierrot tout à l'heure, un côté narratif, voilà, s'il fallait colorer un peu chaque saison.
Un côté narratif très marqué, et ouais. Puis donc dernière saison sur le journalisme, qui est une espèce un peu de retour aux sources pour David Simon. Pierre-Olivier Garcia.
Oui, non, c'était juste une précision sur le fait que la saison 3, c'était un peu la saison de la réforme, quoi, de la politique. Mmh. Et en fait, nous, donc, ce qui nous a intéressé en tant que géographe et qu'enseignant en géographie, c'est qu'en fait, toutes ces cinq saisons, bah, en fait, donnent à voir un système territorial, donnent à voir une ville, donnent à voir ce qu'on appelle en géographie l'organisation socio-spatiale de la ville de Baltimore et de comment ses habitants y circulent, comment ils sont pris dans des logiques de contraintes, etc. Et donc, ça faisait en fait un bon outil pédagogique. Voilà.
Très bien.
When you walk He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand, and we'll all be safe from Satan.
On vient d'écouter une des versions du générique de The Wire par Steve Earle, une chanson originellement de Tom Waits qui s'appelle Way Down in the Hole. On est en compagnie de Pierre-Olivier Garcia et Sébastien Leroux pour parler de la série The Wire. Alors, vous avez proposé à vos étudiants de deuxième année une expérience pédagogique autour de cette série. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez fait avec vos étudiants ?
Et alors, en premier lieu, on est parti de l'idée qu'on avait eu envie de leur faire un rapport de recherche sur The Wire et ses dimensions géographiques. Et on s'était un peu lancé ça comme un défi fou au départ, et puis on s'est dit, après tout, c'est possible pour des étudiants de L2 de leur donner un cadre de recherche scientifique, comme des chercheurs, avec un peu un appel à communication au départ, et en leur donnant comme objectif, en 3 mois, de rédiger un article scientifique sur le sujet qui les intéressait, un sujet géographique, mais qui les intéressait sur cette série. Donc on est vraiment parti de ce point de départ-là en se disant, voilà, on a envie de bosser autour de la recherche sur un objet bien précis qui était The Wire.
Pierre-Olivier Garcia.
Et en plus de ce premier objectif, il y avait un objectif qui était très subjectif de notre part, qui était de trouver enfin un lieu, enfin. Mm-hmm. Parmi d'autres... à l'université, dans notre travail, un endroit qu'on se fabriquerait nous-mêmes où on peut mêler nos hobbies, nos passions, les choses qu'on aime faire en dehors du travail et le ramener au travail et s'amuser avec, quoi, et le faire partager aux étudiants.
La transformation, au fond, d'une passion en un savoir scientifique, ou en tout cas la manière dont on peut transformer ça et produire de la science autour de ça.
Voilà.
Alors, ils avaient donc à faire un article scientifique pour ce rapport dont vous parliez, Sébastien Leroux. Alors, avant qu'on rentre un tout petit peu dans le détail, on ne pourra pas restituer tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont énormément travaillé. Hein, le rapport doit faire 150 pages. C'est un recueil, hein, même, de textes. Comment ça a été perçu, sans se fâcher avec tout le monde, comment ça a été perçu par vos collègues, cette proposition de travailler sur The Wire, et puis comment ça a été perçu par les étudiants?
Alors, bon,
Pierre-Olivier Garcia.
De la part de collègues, disons que c'était une unité d'enseignement qu'on peut caractériser comme étant une unité d'enseignement de géographie sociale et culturelle. Donc en fait, je pense que les enseignants qui sont proches des thèmes de la géographie culturelle, sont habitués à ce genre de travaux et vont l'accepter et comprendre les enjeux. Voilà. Après, c'est sûr que Sébastien...
On a eu des retours d'étudiants qui nous disaient que d'autres étudiants ou d'autres enseignants leur disaient « Ah oui, c'est l'UE-série, lieu où on regarde des séries télé. »
L'UE, c'est l'unité d'enseignement.
Voilà,
l'unité d'enseignement.
Vous regardez la télé en cours, quoi. Ouais.
C'est ça. Donc, il y a toujours un peu cette idée que ce ne serait pas un objet complètement légitime, que ce serait un objet un peu pas très sérieux ou un peu un objet de détente. Là, on peut quand même essayer de tordre le cou à ça. On y reviendra, mais on peut déjà en dire un mot. C'est-à-dire qu'au fond, cette série très ethnographique, très sociologique, peut être tout à fait un matériau des sciences sociales, c'est ça qu'il faut dire quand même.
Oui, et puis parce que c'est un produit culturel que produit notre société, comme les films, comme les romans, comme la bande dessinée, enfin comme tout un tas d'objets culturels. Et à partir du moment où des sociétés produisent ces objets-là, on peut lire ces sociétés à travers des objets qu'elles produisent. Ça pourrait être même des objets plus techniques, mais enfin voilà, c'est une approche qui paraît qui paraît saine, mais qui, c'est vrai, en géographie, la géographie culturelle est en fait pas très ancienne non plus, hein, dans l'histoire de notre science. Et du coup, il y a encore des objets comme ça qui ont du mal à être admis, mm-hmm. entre guillemets, d'autant plus quand c'est des objets qui restent encore grand public, hein, et qui n'ont pas encore été introduits, on va dire, dans la doxa des universitaires, voilà.
Et d'autant plus même si au sein de la discipline, il y a des évolutions, parce que les chercheurs innovent, donc il y a beaucoup de travaux, de plus en plus, en tout cas sur le cinéma, un peu moins sur les séries, mais il y a une thèse en cours en géographie sur les séries télé. Mais ce qui m'a d'autant plus impressionné, c'est que les étudiants eux-mêmes n'imaginaient pas que ce soit possible de travailler sur cet objet-là, parce qu'ils se faisaient une image de l'université. En y étant, ils se faisaient une représentation de l'université comme un lieu de la très haute érudition, un lieu où on travaille sur... si on travaille sur les représentations du paysage, ça ne peut être que sur les peintres romantiques anglais du 19e siècle, ou sur des objets de très haut niveau culturel. Alors qu'en fait, non, nous, on leur a dit, vous pouvez déployer vos savoirs, qu'on vous enseigne vos savoirs géographiques, sur des objets populaires, de masse, a priori peu légitimes, mais qui en fait racontent des choses très importantes et fondamentales, je crois, sur la société d'aujourd'hui.
Oui, et sont des matériaux qui sont d'une richesse extraordinaire. Donc, il y avait là une série de séances pour vous, hein, une douzaine de séances, avec une progression intellectuelle des étudiants qui regardaient la série. Alors, ils n'ont pas forcément tout vu, ça vous avez dit, 58 heures, donc tout ça est un peu long, même quand c'est... Alors, surtout quand ça devient pour le travail, on a moins envie de les regarder, mais en tout cas, ils ont joué les jeux et ils ont produit tous ces textes. Alors, peut-être qu'on peut, comme ça, tirer deux, trois fils sans rentrer dans le détail de chaque article, mais il y a un personnage central dans The Wire, c'est Baltimore. Bon. Donc est-ce qu'on peut dire un mot de cette présence de la ville? Il y a une de vos étudiants qui s'appelle Audrey Colomb qui baptise Baltimore la ville des villes, c'est-à-dire au fond une ville métaphorique ou métonymique, hein, qui vaudrait pour toutes les villes d'Occident finalement. Voilà. Un petit mot peut-être sur Baltimore, Sébastien Leroux.
Alors Baltimore, c'est une ville, déjà il faut peut-être la resituer, elle est sur la côte nord-est des États-Unis. On fait partie de ces villes qui font partie de la Rust Belt, c'est-à-dire de ces villes qui se sont désindustrialisées très rapidement après la Seconde Guerre mondiale et qui malheureusement pour elles n'ont pas eu de solution de remplacement en termes de développement, en termes de relais économique. Pas comme New York, pas comme Washington, pas comme d'autres villes qui sont arrivées à se réinventer. Et du coup, on a une ville qui est quasiment en crise endémique depuis les années 1970. Donc c'est un peu, entre guillemets, la ville des villes, oui, et puis c'est la ville des villes en crise aussi. C'est la ville de l'échec du capitalisme industriel des années 50-60.
Du rêve américain.
Et du rêve américain en partie. Mm-hmm. Pierrot la compare souvent à Détroit, hein, comme une autre ville comme ça détruite, hein, et qui s'est donc aussi reconstruite autour des économies parallèles. À Détroit, je crois, Pierrot disait que c'est 8% d'héroïnomanes. À Baltimore, on est sur des chiffres à peu près identiques. Donc, il y a eu la mise en place d'une économie parallèle qui est venue en relais de l'économie traditionnelle. Mm-hmm. Et cette économie parallèle s'est faite autour de la drogue. Et donc, c'est ce personnage-là, cette ville-là, qui est prise vraiment dans son ensemble. Et c'est vrai que c'est un des ressorts scénaristiques, c'est comment est-ce que les différents quartiers, comment est-ce que les différents groupes sociaux, comment est-ce que les rapports de hiérarchie se traduisent aussi dans l'espace. Et tout ça va créer une série qui va mettre en avant en permanence cette ville de Baltimore, avec même des sous-identités, hein. On a le West Side qui ont des signes de reconnaissance entre quartiers, etc. Donc c'est là où encore on revient sur ce terme d'ethnographie, ou au moins de réalisme, on a une description très précise de la ville, et ça sert au matériel des scénarios des épisodes.
Il y a Pierre-Olivier Garcia.
Ouais, d'autant plus que nous, ce qui nous intéresse en tant que géographe, c'est que un territoire, la ville ici, ça opère. C'est-à-dire que l'espace n'est pas simplement la projection des rapports sociaux, c'est-à-dire bon, y a des inégalités entre deux groupes sociaux, ça va se projeter dans l'espace et on va voir ces différences, mais aussi ça opère, c'est-à-dire que ça fonctionne comme un système de contraintes dans la vie, dans les trajectoires de vie, dans la manière dont les relations sociales vont se tisser, etc. Et je crois que cette série le montre vraiment très bien. Donc pour nous, c'est un peu du pain béni. Et juste aussi sur la ville Baltimore comme quasi-personnage, en fait, on s'en est ça n'a jamais été, je crois, étudié vraiment en tant que tel, c'est-à-dire par les étudiants, comment la ville, elle est un personnage, mais on l'a plus utilisé comme postulat de recherche. C'est-à-dire que dès le début, on a dit aux étudiants, c'était un peu ce qu'on partageait, une des seules choses qu'on partageait en commun, c'était de dire, la ville, c'est une série sur Baltimore, Baltimore est un personnage, et on va le prendre pour acquis, et maintenant on va travailler.
Valeur de l'homme, on est en compagnie de Pierre-Olivier Garcia et Sébastien Leroux pour discuter de la série The Wire. Donc je rappelais que vous aviez, avec vos étudiants de L2, lancé au fond une idée de travail autour de cette série, avec tout un protocole, d'écriture, de recherche. Alors comment vous avez fait, comment on travaille sur cette série-là?
Alors, Sébastien Leroux. Peut-être au départ, on a eu le défi d'arriver à les enrôler, parce que ce n'était pas un travail classique. Et donc on a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on allait faire pour les convaincre et les mettre au travail, entre guillemets, là-dessus. Alors j'avais repris une idée qui m'avait été confiée par Yves Béal à l'époque, qui est un écrivain qui fait beaucoup d'ateliers d'écriture dans le cadre de l'éducation nationale et puis à côté, et qui disait toujours, faut toujours commencer par lancer un défi. Voilà. Mmh. Et donc on a arrivé le premier cours, on leur a dit, voilà, dans 3 mois nous aurons écrit un livre ensemble. Ce livre, ça sera un rapport de recherche. On est un peu parti comme ça pour leur donner envie en se disant écrire un livre à 10, 12, ça peut être un bel objectif. Et puis à partir de là, on a mis en place toute une réflexion sur écrire un article scientifique. C'est pas comme faire une dissertation. Donc qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin de faire? Ils vont avoir besoin d'écrire. Donc on les a fait écrire toutes les semaines. Tous les étudiants, au début, ils rendaient une page. Et puis petit à petit, ils ont rendu 2 pages. Et puis petit à petit, ils ont rendu 5 pages au milieu du semestre, pour pouvoir se mettre dans le protocole de l'écriture scientifique. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on a eu, avec Pierrot, un gros boulot d'encadrement là-dessus, de relecture. Et petit à petit, grâce à ça, on a pu leur transmettre ce qu'était l'écriture scientifique sans essayer de déborder sur le contenu. C'est-à-dire que le contenu, c'était eux qui devaient le produire.
Mais il y avait une liberté. Eux avaient une liberté d'écriture dans les thèmes choisis préalablement, en tout cas. Non. Mais même pas.
Non. En fait, on a mis en place un... En fait, nous, notre, ce qu'on a fabriqué, ce qu'on a préparé pour le cours, c'est un calendrier de contraintes, un rétro-planning, un rétro-planning sur 10 séances, en se disant qu'est-ce qu'il faut, quelles étapes il faut franchir pour, à la fin, dans 3 mois, écrire de toute façon ce rapport. Donc en fait, on a créé un système de contraintes, c'est-à-dire qu'on leur a fabriqué un cadre et on leur a imposé une seule injonction qui est écrivez un article scientifique de qualité sur The, si possible, mais ça l'a été, sur The Wire. Et ensuite, au niveau du contenu, c'est eux qui ont largement dépassé nos attentes en termes de contenu. Ils ont trouvé leur propre contenu, ils ont créé leur problématique. Nous, l'objectif, c'était vraiment au maximum. Moi, j'ai ma petite référence que j'aime bien, c'est Jacques Rancière, qui a créé un bouquin qui s'appelle Le Maître Ignorant, qui est en fait de dire, sa philosophie de la pédagogie, c'est de dire, en fait, on peut être un maître ignorant, c'est-à-dire être maître, poser le cadre et l'injonction au travail, par contre être ignorant et laisser à l'élève toute l'éducation, en fait, il le fait lui-même. Et là-dessus, nous, c'était un peu notre base, et aussi de dire ne pas fixer un niveau préalable aux étudiants, c'est-à-dire ne pas dire, quand on enseigne au primaire, on dit ça c'est un CE1, je vais lui enseigner des choses du niveau de CE1, et ben à l'université c'est pareil, on dit c'est des licences 2, leur niveau c'est ça. Non, nous on a essayé de charger la barque au maximum, de leur faire tout ce qu'un chercheur professionnel qui a fait une thèse doit faire, donc il y a toute une série de choses à faire, et on leur a dit de le faire.
Sébastien Leroux. Non, mais
même pire, on s'est dit à la fin du trimestre que c'est même dommage que nous en tant que chercheurs on bosse pas comme ça des fois dans un cadre temporel très restreint, et que finalement, en se voyant 30 heures sur 3 mois, on est arrivé à pondre... Les étudiants sont arrivés à pondre une dizaine d'articles de 10 pages en moyenne. Donc c'est vrai que ça a même dépassé du coup le cadre attendu. C'est-à-dire que finalement, même nous, dans notre travail de recherche, on n'est pas aussi efficace que ce qu'ils ont pu l'être en 3 mois.
Oui, parce que les chercheurs sont un peu moins cadrés et que les laboratoires ne jouent plus complètement ce rôle-là. Alors parmi les fils qui ont été tirés par vos étudiants, on a évoqué la question de la ville, évidemment, de Baltimore. On peut peut-être aussi dire un mot de ce qui fait le sel de cette série, c'est-à-dire sa dimension expérimentale ou sa dimension de proposition. C'est une série qui se veut force de proposition pour des réformes aux États-Unis, ou en tout cas pour des réformes urbaines ou autres. Pierre-Olivier Garcia.
Oui, alors en fait, c'est un étudiant qui a en fait écrit un article sur The Wire comme une géofiction. Bon, en gros, une fiction géographique. Et il montre qu'il y a des géofictions classiques du type Game of Thrones ou Star Wars avec un univers, un monde fictionnel géographique pour Star Wars avec plusieurs planètes, un système géopolitique, etc., etc. Et The Wire a la particularité d'être une géofiction expérimentale, c'est-à-dire que tout à l'heure on disait que c'était une série très réaliste, oui certes, c'est une série ethnographique, très proche du réel, etc., mais à certains moments, David Simon et Ed Burns mettent en place ce qu'on peut appeler des décrochages, et tout d'un coup, dans ce réalisme, mettent des espèces de bulles utopiques, où là, David Simon va proposer des solutions pour répondre à tout ce qu'il critique sur la société américaine contemporaine.
Alors, dans les solutions qu'il propose, il y en a deux, essentiellement, dans la saison 3 et saison 4. Il y en a une, c'est qu'il recrée ce qu'il va appeler Amsterdam, c'est-à-dire il y a un commissaire de police qui dit, vu qu'on n'arrive pas à limiter la diffusion de la drogue, on va l'encadrer et on va l'autoriser que dans certains espaces pour pouvoir pacifier les rues.
D'accord, c'est-à-dire pacifier le reste de la ville en concentrant tout dans un seul et même quartier où là le deal et la consommation de drogue seraient autorisés. C'est exactement ça,
dans une rue qui était vraiment à l'état d'abandon total. Et donc ça va permettre, alors là c'est la partie utopique, les chiffres de l'indélinquance dans cette zone-là vont être tout à fait à la baisse. Il y a quasiment plus d'arrestations, mais il y a quasiment plus de plaintes de pour voisinage, du moins pour bruit, pour nuisance, etc. Et c'est une proposition de légalisation finalement de la vente de la drogue, qui d'ailleurs dans la série elle-même est critiquée, puisque ce projet ne sera pas étendu au reste de la ville de Baltimore, vu que dès qu'il est connu, les freins politiques vont être enclenchés.
La deuxième expérience, brièvement, c'est une expérience pédagogique
C'est une expérience pédagogique autour de l'échec de l'éducation des gamins dans les quartiers difficiles. Et entre autres, l'idée est de prendre les éléments les plus difficiles, qui généralement s'amusaient à se faire virer de l'école pour pouvoir avoir du bon temps. Donc là, on les rassemble tous dans une seule classe où ils sont peu nombreux et ils n'ont absolument plus le droit d'être absents à l'école. Et donc, on va essayer de reconstruire quelque chose autour de ces classes de cas difficiles.
Merci beaucoup à tous les deux, Pierre-Olivier Garcia et Sébastien Leroux. C'était La Valeur de l'Homme autour de la série The Wire. La deuxième chanson qu'on a écoutée était du groupe Mallory, ça s'appelait Bad Monkeys. Merci beaucoup et à très bientôt sur RCF.